Le tour d'horizon. Ici Éric Lantier. Je vous invite à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon. Le tour d'horizon est une émission quotidienne qui survole les enjeux du 21e siècle. Je commenterai les sujets d'actualité qui concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon pour voir plus clair sur cette terre. Soyez des nôtres, le tour d'horizon débute à l'instant.
Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM et de prendre part à ce tour d'horizon. Veuillez noter que le tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il est question de la pression pour convertir les protestants en Nouvelle-France. La diffusion de ce jour fait partie d'une série de 6 émissions consacrées à l'histoire des franco-protestants en Amérique du Nord. Vous écoutez présentement la 4e émission de cette série. Je vais continuer à commenter des citations du livre de Rieul Duclos intitulé « L'histoire du protestantisme français au Canada et aux États-Unis ». Nous avons vu lors de la 3e émission sur le sujet que les protestants sont victimes de grenouillage de la part des Récollets. Voici ce que Rieul Duclos a à dire sur le sujet. Pour venir à bout de leur fidélité qu'ils appelaient de l'endurcissement, les Récollets envoyèrent une députation à Paris en vue d'obtenir du roi l'expulsion des protestants de la terre canadienne. On s'étonne de trouver des historiens modernes qui cessaient à justifier de telles démarches. M. Benjamin Soult les appelle un acte de vigueur et de patriotisme. Il ajoute qu'ils aient demandé l'expulsion des calvinistes, c'est la preuve d'un esprit pratique. Garneau, dans la première édition de son Histoire du Canada, a montré plus de justice. Il exprima le regret que de pareilles démarches aient été possibles car elles portèrent atteinte à la prospérité du pays. Il déplora que les Huguenots n'aient pas été tolérés, sinon encouragés. Cette opinion a dû être corrigée dans les éditions qui ont suivi, les Jésuites en ayant surveillé le tirage. Louis XIII refusa de s'associer à cet acte d'intolérance, mais il était si éloigné que les Récollets ne s'embarrassèrent guère de ses scrupules. Les Récollets avaient un désir de voir les protestants s'assimiler à la culture et à la religion catholique. Ce qui arrive ici, mesdames et messieurs, c'est que c'était le contexte de l'époque. Et comme je l'ai dit préalablement dans d'autres émissions, l'objectif ici n'est pas de décrier ou de démontrer que les catholiques n'étaient pas gentils. L'objectif ici est tout simplement de dépeindre la réalité protestante en Nouvelle-France. Maintenant, aujourd'hui, les relations entre les catholiques et les protestants ne sont plus tendues comme elles étaient. Certes, chacun remplit sa mission de son côté. Il n'y a pas nécessairement énormément d'échanges entre les catholiques et les protestants. Parfois, certains groupes protestants vont s'associer à certains groupes catholiques pour défendre non pas des croyances similaires ou des croyances communes, mais pour défendre des valeurs communes. La distinction entre des croyances et des valeurs, c'est une valeur, c'est une priorité. C'est ce qu'on priorise dans une société. C'est ce qu'on veut voir en haut de la liste. Une croyance, c'est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose d'incontournable. C'est basé sur la foi. Maintenant, par exemple, je peux croire à la Sainte Trinité. Il y a certains groupes religieux qui ne croient pas à la Sainte Trinité. Ou est-ce qu'il y a un seul Dieu, mais qui existe en trois personnes? Mais par contre, il peut y avoir un groupe qui ne croit pas à la Sainte Trinité, mais qui partage la même valeur que l'euthanasie n'est pas un signe de santé pour une société. Mais je ne veux pas aller plus loin parce que le but de l'exercice ici, c'est de nous rappeler l'histoire du protestantisme. Je voulais juste amener un éclairage, une précision pour s'assurer que l'objectif de ces capsules, l'objectif de ces émissions soit bien saisi. Ce qu'on a vu ici, spécialement à la fin de la 3e émission, c'est que Garneau trouvait déplorable qu'on ait repoussé les protestants. Pourquoi? Parce qu'ils contribuaient à la prospérité du pays. Maintenant, Duclos nous dit, 300 ans plus tard, que l'histoire a retenu les souffrances de ses martyrs et les a suivis dans l'exil. Ce qu'elle nous apprend nous fait sentir quelle perte ces persécutions infligèrent à notre cher pays. Parce que lui, il écrit ce récit-là 300 ans après ces événements-là. Il joue un rôle d'historien parce qu'il ne s'est pas écrit énormément de choses à l'époque sur la réalité protestante. Je poursuis. Malgré de tels attentats, les protestants de France avaient toujours les yeux tournés vers le Canada. Une quatrième expédition s'organisa sous la direction de Caen, sieur de la Motte, l'oncle et le neveu que le duc de Montmorency avait nommé surintendant de Québec. Fermement attachés au principe de la Réforme, ces hommes ne purent trouver grâce devant l'esprit de parti. Et les auteurs catholiques qui s'étaient occupés d'eux n'avaient à leur endroit que des choses ridicules à dire. Ils se riaient de leur foi et de leur honnêteté. En l'absence de pasteur, ces deux gentilshommes occupaient des situations officielles, réunissaient leurs co-religionnaires afin de les exhorter à la fidélité et à la persévérance. Pendant 6 ans, de 1621 à 1627, ils présidèrent à Québec des réunions d'édification et de prière. En 1625, arrivent les Jésuites. Ce qui se passa leur était un scandale qui devait prendre fin. Aussi n'ont-ils point de paix qu'il n'eût obtenu la révocation de ses quins. Charlevoix écrit dans son Histoire du Canada, « Quelque temps après l'arrivée des Jésuites, il n'y avait plus un seul calviniste dans la colonie. On les avait expulsés ou mis à mort. » Je continue. « Si savamment qu'elle fut organisée, la persécution n'avait pu détruire le protestantisme et les protestants. Au milieu de tous ces troubles, un premier enfant vient au monde dans la famille d'Abraham Martin, celle qui a donné son nom à la plaine devenue historique. Il fut baptisé protestant à la suite de la rencontre des deux héros, Montcalm et Wolfe. Abraham Martin paraît avoir abjuré la foi protestante car son dernier fils fut baptisé par un prêtre. Il s'appelait Charles Amador et devint prêtre. Son parrain s'appelait Charles de la Tour. C'était encore un protestant que les prêtres réussirent à convaincre ou à effrayer. Pourtant, il avait eu le noble exemple de son père, Claude de la Tour, et celui de son excellente mère, demeurée fidèle malgré des essais de conversion répétés. C'est incroyable, mesdames et messieurs. C'est la première fois que certainement vous entendez parler ou vous entendez dire que le nom des plaines d'Abraham, un endroit que j'aime visiter, j'aime marcher sur les plaines d'Abraham, spécialement avec mon ami Richard et mon ami Gaétan. Eh bien, les plaines d'Abraham sont nommées en mémoire d'un protestant, Abraham Martin. C'est incroyable, ça. Maintenant, ce que Duclos est en train de nous montrer, c'est qu'il y a un reste, un petit groupe qui continue à mettre en valeur leur croyance et leur foi, protestante évidemment, en Nouvelle-France. Cette persévérance, mesdames et messieurs, se vit au travers énormément de déceptions, puisque ceux qui persévèrent sont témoins qu'il y a des gens autour d'eux qui abandonnent le combat, qui abandonnent la foi, ou qui se convertissent. Alors, ce que Duclos va dire, il va dire que, à peu près d'égale force quant au nombre, protestants et catholiques se regardaient de travers et arrivaient à se tolérer mutuellement. Un tel état d'esprit devait tôt ou tard créer des difficultés. Il ne fallait qu'une étincelle pour mettre le feu aux poudres et renverser du coup ce fragile édifice. Ce devait être l'œuvre de J. Duplessis. Ce personnage fort et peu recommandable avait été successivement soldat, prêtre, prédicateur de renom, aumônier de la trop fameuse Catherine de Médicis, maréchal, secrétaire d'État, de la guerre et des affaires étrangères. On finit par mettre sur sa tête la barrette de cardinal. C'est à son neveu, le duc de Vatantour, que Richelieu donna le titre de vice-roi qu'il avait enlevé au duc de Montmorency. Il le trouvait probablement trop doux pour les protestants. Vatantour, fort dévoué aux intérêts de la colonie, seconda le fanatisme de Duplessis et, des deux côtés de l'Atlantique, les protestants connurent des heures sombres. Nommé vice-roi, Vatantour devait se rendre à son poste. Ce ne fut pas chose très commode car autour de lui, même chez ses intimes, il ne jouissait pas d'une grande popularité. Pour parer aux conséquences de cette méfiance que justifiait sa conduite, Vatantour prit avec lui des officiers et des matelots protestants qu'il trompa en leur faisant des promesses qu'il se réservait de ne pas tenir. C'est ce qui explique qu'il y eut sur le bateau qui l'amenait au Canada des services protestants auxquels assistaient les deux tiers des passagers. Pour ménager les susceptibilités du duc, on évita de chanter trop fort les vieux psaumes, surtout quand on fut sur le fleuve et que l'on toucha au terme du voyage. C'était pas évident. Il y avait une tension constante. D'un côté, on fuit la France pour avoir la paix ici, mais on est ici, puis il y a encore des tensions. Et en plus, on a un climat qui ne joue pas en notre faveur. Je poursuis. C'était trop peu au gré des jésuites qui veillaient. Ils allaient bientôt mettre fin à ces bruyantes expressions de la foi huguenote et interdire un culte célébré dans une langue que tout le monde pouvait comprendre. Les vexations, les confiscations, les galères, le supplice de la roue, le gibet, tout fut employé inutilement pour les convertir. Les malheureux protestants ne songèrent plus qu'à échapper à la main qui s'appesantissait sur eux. Ils portèrent leur industrie, leur richesse en Hollande, en Allemagne, en Angleterre et dans les colonies américaines. Et savez-vous quoi? Duclos revient sur un point important, mesdames et messieurs, parce que c'est un point qui est véritable, qui est authentique. Il va dire que tel avantage n'eût pas été une immigration en masse. Ce qu'il va dire à la page 25, c'est que la Nouvelle-France a perdu des hommes riches, éclairés, paisibles et laborieux. C'était ce qui caractérisait les Huguenots. Les Huguenots n'avaient pas le choix de quitter. Ils étaient persécutés, ils étaient calomniés, ils vivaient dans un contexte qui était insupportable. Ce qui est intéressant, et ce qui est malheureux à la fois, c'est ce que Bossuet a écrit aux protestants. Voici ce que nous rapporte Duclos. « Si vous et les vôtres n'êtes pas convertis avant tel jour, l'autorité du roi se chargera de vous convertir. » C'était le genre de menace qu'ils pouvaient entendre régulièrement. Mais ces menaces-là ont fait écho un peu partout en Amérique du Nord. Duclos va nous rapporter que l'écho de ces persécutions arriva jusqu'aux frères établis dans la Nouvelle-Angleterre. Et en 1776, ils formulèrent leur fameuse constitution « formidable protestation qui dénonçait les agissements de Rome et affirmait la liberté de conscience. » Et ça, c'est intéressant, mesdames et messieurs. Les États-Unis, mesdames et messieurs, ont laissé, contrairement à la Nouvelle-France, un espace qui permettait aux protestants de pouvoir vivre, et à tout groupe, à toute confession, de pouvoir vivre la liberté. La liberté de conscience, la liberté d'expression et la liberté de religion. Mais je vois le temps avancer. C'est donc le temps de clore cette émission. Lundi prochain, nous allons poursuivre la série avec la 5e émission. Et là, il sera question des persécutions et de la violence à l'encontre des protestants. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous invite à être des nôtres dès lundi. Par contre, si vous désirez poursuivre la discussion, je vous invite à m'écrire à l'adresse suivante. C'est leblogueur@commercialericlantier.net. C'est leblogueur@commercialericlantier.net. Je vous invite également à être des nôtres du lundi au vendredi à 8h05 et à 20h05 pour parcourir votre tour d'horizon. N'oubliez pas que cette émission est en tout temps disponible sur le www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Mesdames et messieurs, merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM et je vous dis à lundi.
Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Le Tour d'Horizon existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante. leblogueur@commercialericlantier.net. Le Tour d'Horizon est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer pour un autre Tour d'Horizon. Au revoir!